avec vous dans le livre de l'Apocalypse ce matin. Livre de l'Apocalypse et au chapitre 3e et au verset 7e. Apocalypse chapitre 3 verset 7. Nous allons voir des vous savez que je crois que le Saint-Esprit nous parle. Et je crois que le Seigneur nous a parlé, notamment au travers de ces chants, et vous allez le voir, il a été souvent fait mention du nom de Jésus. Oui ou non ? Pas moi qui l'ai inventé. Hein. Voilà, du nom de Jésus. Et mon plan suit cette ligne directrice de nous attacher au nom de Jésus qui sont cités dans le texte que nous allons voir maintenant. Alors je crois que le Saint-Esprit conduit. Alléluia ! Amen ! Vous devriez dire merci Seigneur. Alléluia, parce que quand c'est le Saint-Esprit qui agit, ça vaut mieux que l'intelligence d'un homme. Hein. Gloire à Dieu. Allez, Apocalypse, chapitre 3 et le verset 7. Voici ce qu'il est écrit. Écrit à l'ange de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Gloire à Dieu. Parfois, certains craignent de lire l'Apocalypse. Vous savez, on fait une lecture suivie, on lit la Bible. Peut-être avez-vous ce plan, lire la Bible en un an. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir une lecture suivie de toute la Bible et de savoir et d'avoir lu toute la Bible intégralement. Et quand on arrive au moment de lire l'Apocalypse, on se dit oulala. Hein, voilà, il y a des choses des fois qui nous dépassent. Hein, c'est vrai. Hein, un monstre avec une tête de léopard, la bête, le dragon, etc. Une femme, on lui donne des ailes. Bon, des fois, c'est un peu compliqué à comprendre, mais il y a des parties qui sont vraiment très accessibles, et notamment les trois premiers chapitres, eh bien, où il nous est fait mention de ces églises de l'Apocalypse, ce qu'on appelle les sept églises de l'Apocalypse. Si je veux faire un petit peu un résumé du livre de l'Apocalypse, eh bien, il révèle les temps à venir pour l'Église. À savoir que Jésus est intervenu, le salut est entré, la lumière du monde, c'est Jésus. Mais ce n'est pas parce que Jésus est intervenu que le diable a renoncé, eh bien, son acharnement. Au contraire, il va redoubler, eh bien, contre les œuvres du Seigneur. Et il va y avoir une attaque directe du diable face au Seigneur, face à l'agneau de Dieu et face à son Église. Ce qui nous rassure, c'est que le diable est vaincu. Alléluia ! Satan est vaincu, et Jésus-Christ l'a dépouillé de son autorité, mais cependant, eh bien, il va être celui qui va tenter de subjuguer même l'Église et assujettir la terre. Et le livre de l'Apocalypse nous renseigne qu'il y aura sur la terre en réalité deux types d'hommes, des hommes qui adoreront le Seigneur, et des hommes qui adoreront le serpent, le diable. Il n'y aura pas, j'allais dire, un juste milieu. Soit on sera pour Jésus, soit on sera contre lui. Et nous voyons que les événements avancent dans notre terre pour que les choses soient ainsi. Il y aura des persécutions, il y aura l'enlèvement de l'Église, un jugement, le règne du Seigneur, un jugement final, de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Et le Seigneur, face à toutes ces épreuves qui vont venir, fait l'état, le bilan spirituel de son peuple. Parce que c'est cette église qui sont au début du livre de l'Apocalypse. C'est pour elle que cette prophétie est adressée. C'est pour nous. Et il est en train de regarder l'état spirituel de l'église pour voir si, examiner, est-ce que tu vas tenir? Est-ce que face aux combats qui vont venir devant toi, est-ce que tu vas être de ceux qui vont, eh bien, être vainqueurs? Parce qu'à chaque fois, et nous l'avons lu, celui qui vaincra, celui qui tiendra bon, ou est-ce que tu vas être de celles et ceux qui vont perdre, et avec les conséquences terribles que ça. On est surpris lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse, parce que je vous ai dit, il y a 7 églises, mais sur les 7, il n'y en a que 2 à qui Jésus ne fait aucun reproche. C'est l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie, à laquelle on va s'intéresser, parce que voilà, on veut lui ressembler à Philadelphie, l'amour des frères. Alléluia. Une église comme ça, c'est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Mais cependant, on veut pas oublier que pour les 5 autres, le compromis, le premier amour s'est étouffé. Le compromis est entré. Des choses malsaines se sont introduites à l'intérieur, eh bien, de ces églises-là, même des fausses doctrines. Et le Seigneur est en train d'avertir que dans ces conditions, eh bien, ils ne vont pas tenir, à moins qu'ils ne se repentent, à moins qu'ils ne se reprennent, parce qu'avec le Seigneur, il y a toujours, eh bien, une victoire à saisir. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis toujours dans mon introduction. Mais pour vous dire, mon frère, ma sœur, et peut-être inviter quelqu'un à réfléchir sur, eh bien, sa vie spirituelle, l'épreuve qui permet de faire un bilan de notre foi, ça existe dans la parole de Dieu. Dieu est capable de susciter des épreuves dans nos vies pour que nous puissions savoir où nous en sommes avec lui. Lorsque je lis par exemple l'apôtre Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 1er au verset 6, il nous est dit ceci, voilà que nous sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Il nous est dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, notez bien, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ah, on est dans le retour du Seigneur, dans les temps de la fin, etc. On rejoint le livre de l'Apocalypse. Et l'Écriture nous dit, il va y avoir des épreuves qui vont vous permettre d'élaguer ce qui ne sert à rien. Vous voyez, ce qui ne sert à rien. Je crois que Sabine, lorsqu'elle a fait son entraînement, hein, elle a compris qu'il y a des choses qui servaient à rien. Hein, en tant que militaire, si on veut avancer, il y a des choses, une façon de marcher, de se comporter. Ou voilà, moi je suis pas là-dedans, mais voilà, je suppose un sportif. Voilà, si tu veux remporter le prix, il faut une certaine discipline, on s'astreint à un régime alimentaire, à des heures de sommeil, etc. Bref, il y a des efforts à faire. Voyez, hein. Bien sûr, on est sauvé par grâce, mais je comprends que il y a des choses qui n'ont rien à faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et tout cela, les épreuves nous permettent, eh bien, de nous prévenir afin que nous puissions, eh bien, le comprendre. Du reste, certains étudiants à l'heure actuelle vont passer des examens. Ils me regardent en souriant. Hein, que le Seigneur les bénisse. Alléluia. Mais il faut bien qu'il y ait un test pour éprouver leurs connaissances et qu'on valide leur diplôme. Imaginez qu'un docteur n'ait jamais passé de diplôme. Il dit non, mais moi c'est bon, c'est comme ça, j'y vais au feeling. Vous inquiétez, ouais, d'accord, très bien, hein, Ludo. Et on éprouve la foi, alléluia. Alors, je voudrais qu'on suive un plan. et que l'on reste attaché à cette intro et retenir ce que le Seigneur a apporté comme félicitation à cette église de Philadelphie, qui est certainement la plus belle, auquel Jésus lui dit « Tu as gardé ma parole. » Tu voilà, tu as peu de puissance, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup d'éclat, mais il y a une chose qui avait une valeur extrêmement importante aux yeux du Seigneur, parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qui a de la valeur aux yeux des hommes, c'est ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as gardé ma parole. On va voir que cette parole introduit de garder la persévérance, on verra pourquoi c'est important, de garder la vérité, et on verra qu'on est gardé, et que lorsqu'on garde ces choses, Dieu nous garde lui-même. Alléluia, et c'est extraordinaire. Et à chaque fois, je voudrais que nous puissions garder les noms que Jésus donne. Ça va nous poursuivre cela, parce que Jésus, eh bien, se nomme lui-même en en-tête de cette lettre. Il dit, il est le Saint, il est le véritable, et il est celui qui tient la clé de David. On va voir ce que ça veut dire tout ça. On va voir ce que ça veut dire. Mais on va être attaché à la révélation de Christ. Garder la parole, eh bien justement, eh bien c'est garder, eh bien la révélation de Jésus. Parce qu'avant de nous intéresser au fait, à l'action de garder, de protéger, de veiller, eh bien il faut bien comprendre ce sur quoi il nous faut veiller, ce sur quoi ce qu'il faut garder, ce qu'il faut protéger. Et garder ma parole dans la Bible, dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, et sous la plume notamment eh bien, de Jean l'évangéliste, c'est quelque chose qui est très important. Au commencement était la parole, nous dit le Seigneur, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette parole qui est venue pleine de grâce et de vérité, c'est Jésus. Amen. La parole, c'est ce qui révèle quelqu'un. Vous savez ce que je pense. Vous savez, eh bien, vous avez une idée de ce que je suis. Si vous prêtez attention à mes paroles, je peux savoir qui vous êtes si je prête attention à mes paroles. Et c'est important de prêter attention aux paroles. Tu ne m'écoutes pas. Bien souvent, il peut y avoir entre les personnes eh bien, des altercations ou de l'incompréhension parce qu'on ne s'écoute pas. Trouvez pas qu'on est dans un monde qui ne s'écoute pas. On va vite et parfois même dans un couple, parfois même auprès parents-enfants ou collègues de travail. Mais tu ne m'as pas écouté, tu ne m'as pas entendu. Je te l'ai dit, mais tu ne m'as pas écouté. Et la parole, c'est ce qui révèle les sentiments profonds de quelqu'un, les projets de quelqu'un, la nature de quelqu'un. Et Jésus dira, lui qui est la parole faite chair, il dira, celui qui m'a vu, a vu le Père. Il est celui qui révèle le Dieu invisible. Il est celui qui révèle la nature de Dieu. Étant lui-même Dieu, Dieu fait homme. Et l'Écriture nous dit, mais il faut que tu gardes ma parole. Il faut que tu gardes cette révélation dans un monde tenté par l'œcuménisme, par un espèce de bouillon où toutes les philosophies, les spiritualités, les religions se rassemblent. Non, je ne suis pas, nous dit le Seigneur, dans cette Babylone-là, je suis à part. Alléluia. Il est l'unique, le saint, le véritable. Alléluia. Et nous voulons dire, Seigneur, mais nul n'est comme toi. Alléluia. Le nom de Jésus, j'étais heureux de chanter ces chants parce que il nous révèle, eh bien, l'authenticité, eh bien, du Seigneur, la vérité de sa personne. Vous savez, les uns et les autres, eh bien, si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce qu'un jour nous avons rencontré le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Je veux pas oublier ce jour où, pourtant, j'avais eu une éducation chrétienne où on m'a dit ceci, alors que j'avais tout laissé, tout abandonné. On m'a dit, mais est-ce que tu veux que Jésus intervienne pour toi? Je dis, mais c'est qui Jésus? On peut parler de Dieu, hein, on peut dire que Dieu existe, mais Jésus qui sait, il faut une révélation. C'est celui qui est mort pour tes péchés parce que tu es un pécheur. Admettre qu'on est un Dieu créateur, c'est pas trop dur, mais admettre que tu es un pécheur et que Dieu a été obligé de donner sa propre vie, son propre fils, pour que tu ne périsses pas, mais que tu sois sauvé, ça, il y a l'orgueil, hein. Et ben enfin, pour qui il se prend, lui, de me dire que je suis un pécheur à notre époque? Et puis, je suis capable de mener ma vie? Non. Le salaire du péché, c'est la mort. si Dieu n'intervient pas dans ta vie, si Christ n'intervient pas, si tu n'acceptes pas son amour, tu es perdu. Et je bénis le jour où j'ai dit oui à Jésus. Parce que lorsque je lui ai dit oui, mais sa main s'est posée sur moi et m'a sorti de mes ténèbres. Alléluia. Il a changé ma vie. Avec Thomas, hein, l'autre Thomas, on a un autre Thomas. On a le Thomas de Richter et le Thomas de la Mosson de Sète. On le disait hier, hein, il a changé notre vie. Jésus a changé ma vie. Il est mort à la croix. J'ai aimé tous ces gens, mais attaché à la croix pour moi. Alléluia! Amen. Et c'est cela que le Seigneur désire que nous puissions, eh bien, garder. Retiens ce que tu as. Retiens cette révélation. Retiens cette relation avec le Seigneur, afin que personne, eh bien, ne prenne ta couronne. Se faire ravir la révélation de Jésus. Se faire ravir la connaissance du Seigneur. Mais c'est quelque chose de terrible. Si c'est écrit, ça veut dire que ça peut arriver. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, le salut, il se reçoit personnellement, mais également, c'est personnellement qu'on le garde. Merci Seigneur Jésus pour la prière du peuple de Dieu pour l'Église. Mais lorsque nous serons devant le Seigneur, et l'Écriture nous dit que nous devrons tous passer eh bien, devant son trône, eh bien, c'est personnellement que nous serons appelé, et l'apôtre Paul, qui aime l'Église passionnément, peut-être plus que tout autre serviteur de Dieu, qui a été jusqu'à sa propre mort pour porter le témoignage du Seigneur, dira ceci: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il ne dit pas nous. Je pense qu'il aurait aimé dire nous et assurer les autres, oui, nous. Nous. Non, il ne peut pas dire ça, c'est personnellement. Je l'ai gardé la foi. Garde ma parole. Et je voudrais te dire ceci, peut-être nous encourager, nous qui avons ce privilège immense, eh bien, de connaître le Seigneur, eh bien, d'être au bénéfice de l'action du Saint-Esprit et de sa grâce, de dire: Seigneur, tu reviens bientôt. On n'est peut-être pas les plus intelligents de la planète, mais tu nous demandes une chose, c'est de garder ta parole. C'est de garder cela. Alléluia. Garder la parole, nous est dit, de la persévérance. De la persévérance. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on lit voilà, dans les Écritures, c'est bien de remettre des passages en perspective et de considérer plusieurs textes des Écritures. Le fait de garder la parole, voilà, le fait de garder, pardon, le mot garder, est très souvent associé, voilà, au mot parole. C'est garder la parole. Par exemple, on va aller dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, et au verset 15. Est-ce que quelqu'un peut regarder aussi Jean 8, 51, et un autre, Jean 14, 23? Alors, est-ce que vous êtes rapide? Jean 14, 15, qui c'est qui l'a trouvé? Alors? Non, mais Ludovic, lui, il attend que ça arrive. Voilà, mais c'est le McDo. Je commande, ça va arriver. Voilà. Ben voilà, Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez, le mot c'est le même, hein, c'est garder. Hein. Donc, garder la parole de Dieu, c'est un signe de l'amour que nous lui portons. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mes commandements, ok. Jean, qu'est-ce que j'ai dit? Jean 8, 51. Est-ce que quelqu'un l'a? Vous le lisez à haute voix, hein? Ah ben regardez. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Oh, comment c'est possible ça, pasteur? Bah oui, bah, le corps il meurt, oui, mais l'âme elle n'est pas séparée de Dieu. La mort c'est d'être séparée d'avec Dieu. Mon âme peut être séparée de mon corps, c'est la mort physique, mais mon âme, si j'ai accepté Christ comme sauveur et que je m'attache à lui, eh bien, elle ne sera jamais séparée de lui. Alléluia, je ne mourrai jamais. Ça s'appelle la vie éternelle. Alléluia. Mais vous avez vu, hein, si quelqu'un garde ma parole, vous remarquez également le « si quelqu'un », c'est au singulier. C'est une foi personnelle. Alléluia. Et puis, qu'est-ce que j'avais dit? Jean 14 et le verset 23. Alors, est-ce que vous l'avez? Jean 14 et le verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. C'est-à-dire qu'il y a quand même, pour celui qui garde la parole du Seigneur, mais il y a l'approbation de Dieu dans sa vie. Ça, c'est quand même formidable. Tu te réveilles le matin, tu as l'approbation du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Et il nous a dit, sa présence, elle est là. Alléluia. Elle t'encourage, Kanye. Alléluia. Parce que on garde sa parole. Alléluia. Et nous voulons rester attachés à tout cela. Et je me suis posé cette question quand même. C'est des réflexions. Il nous est parlé de garder la parole de la persévérance, c'est-à-dire c'est continuer de garder cette parole, mais dans un monde qui change. Vous savez que notre monde change. Oui ou non, vous le savez. Vous-même, vous changez. Voilà. Bon, il n'y a que Guillaume qui ne change pas. Voilà. Mais on est dans un monde qui change et on évolue. Par exemple, aujourd'hui... on ne chante pas les cantiques qu'on chantait. Enfin, on en chante quelques-uns de ceux qu'on chantait avec Albert Leblanc, mais on ne les chante pas tous. Voilà, il y en a certains, voilà, bon, ils sont passés de mode, ils ne sont plus d'actualité ou je ne sais quoi. Voilà, voilà. Et puis il y en a d'autres chants. Voilà, et on peut se poser cette question, mais il y a une tension là, Seigneur. Je suis dans un monde qui change. Tu me parles. Tu t'es adressé à moi dans ma vie, donc tu es actuel. Mais en même temps, tu me dis que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, donc tu ne changes pas. Et moi, je dois veiller sur ma parole et Seigneur, montre-moi dans quel domaine, eh bien, je dois évoluer et dans quel domaine je ne dois pas changer. Je ne dois pas changer. On sait qu'il peut y avoir une tentation et certains ont franchi certains pas en allant plus loin que ce que la parole de Dieu dit pour être acceptable, accepté par la société. Et comment faire pour parler à un monde qui évolue du Seigneur qui nous dit « Garde ta parole, ne change pas ». Alors, on se gratte la tête, etc. Et on revient quand même à la parole de Dieu. Jésus dit « Je suis le Saint ». Alors ça me parle. J'ai trouvé dans un commentaire de ce théologien qui s'appelle MacArthur, peut-être certains le connaissent. Il dit ceci, Jésus-Christ a la même nature sans péché que, et sainte que son Père. Cela signifie qu'il est absolument pur et séparé du péché. Ça, c'est la nature divine du Seigneur. Il est saint. Et c'est pratique. Quand je suis né de nouveau, on ne va pas le lire, mais dans Éphésiens 4, 24, dans 2 Pierre 1, 4 notamment, nous dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. Je suis né de nouveau. L'ancien Emmanuel, couvert de péché, prisonnier du péché, prisonnier de la domination du diable. Le nouvel Emmanuel, libéré, pardonné, purifié, libéré, gloire au Seigneur, alléluia, affranchi. Sauvé par grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et là, je comprends. Gardez ma parole, la révélation de ta parole. Tu es saint. Ah oui. Mais alors là, la sainteté, à toutes les époques, ça ne change pas, ça. J'ai pris quelques exemples. Dans la parole de Dieu, on voit des hommes qui ont persévéré, qui ont marché avec le Seigneur. Je pense à Daniel. Daniel 1, 8. Qui refusa de se souiller par l'aimé du roi. Pierre, acte 5, 26, dans l'Écriture nous dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Dans Enoch, dans Genèse 6, qui marchait avec le Seigneur et qui ne fut plus, et qui évoluait dans un monde qui était couvert de ténèbres et dans une rébellion à l'égard de Dieu, c'est pour cela que le déluge est intervenu, le jugement. Nous voyons que au travers de ces trois hommes qui ont vécu à trois époques différentes, ce qu'on pouvait distinguer de leur part, c'est qu'ils servaient un Dieu saint. Ils marchaient dans une voie de sainteté, alléluia. Et je comprends cela. On peut être en 2023, 2024, 2026, 2050 ou je ne sais pas quoi, mais la sainteté de Dieu, c'est toujours la même chose. Alléluia. Et le Saint-Esprit agissant dans nos cœurs et dans nos vies nous amène à produire eh bien, les mêmes fruits eh bien, qui glorifient le Seigneur. Alléluia. On ne va pas le lire, mais Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, etc. Une piété affichée, tout cela dépend eh bien, d'une relation avec le Seigneur dans laquelle il n'y a aucune place pour la tricherie, pour le mensonge, pour le compromis, pour la haine, pour la rancune. C'est un comportement qui est sain. Et je me disais, je vous assure, j'ai fait cette prière. Je dis, Seigneur, c'est bien, tu me confirmes au travers de tous ces noms, au travers des chants, mais Seigneur, montre-moi que le premier nom, je vous assure, j'ai prié comme ça. J'ai dit que le premier nom, c'est saint, que ça apparaisse quand même. Vous avez vu le dernier chant ? Tu es saint, il est saint, il est saint. Gloire à Dieu, alléluia ! J'ai noté dans mes petites notes là, que, alors où est-ce que c'est ? Parce que j'en ai hein, des notes. Hein. Alors, j'ai noté que dans mes petites notes, que la sainteté, c'est plus que la justification. Vous avez été sauvé par grâce, j'ai été sauvé par grâce, justifié, Jésus a porté à la croix mes péchés. Mais tout ça, dans un but, il m'a rendu juste pour que je sois participant de la nature divine. Pour que j'entre dans une nouveauté de vie, dans la sainteté. La sainteté, c'est la nature de Dieu. Dieu est saint. Alléluia. Et moi, j'ai besoin de me poser des questions. Toi aussi. La nature de tes relations au travail. Peut-être pour un jeune. Vie sentimentale. Ou moins jeune, vie sentimentale. Aujourd'hui, je parle à des adultes. Hein, mais l'acte conjugal, on franchit rapidement le pas. Hein. Parfois même, des enfants de Dieu, c'est pas si grave que ça. Si, c'est grave. C'est pas la sainteté. Dieu est saint. Et je crois que jusqu'au retour du Seigneur, ça n'évoluera jamais. Oui ou non ? Alléluia. Et on a besoin de rester attentif eh bien, à ces choses et à veiller et dans tous ces points et ne pas se laisser influencer par les mises à jour que le monde fait et refait sans cesse dans notre société. On sait qu'en peu de temps, notre société a évolué d'une manière telle qu'on se dit, il y a quelques années encore en arrière, on n'aurait jamais supposé que de telles choses s'affichent ainsi, voyez ? Et en réfléchissant là-dessus, je me suis souvenu qu'il y avait un homme qui avait bien commencé, c'était le roi Salomon. Il a commencé en demandant à Dieu la sagesse. Il lui a donné, il a construit le temple, le fameux temple de Salomon, vous connaissez. Et à la fin, le même Salomon de sa vie, qui acceptait toutes les mises à jour du monde, que le monde faisait au travers de les relations et de ses mariages avec les femmes étrangères, il s'est mis à bâtir dans la ville de Jérusalem, dans la ville sainte, des idoles pour d'autres dieux, les abominations, etc. Mais ça, c'est écrit pour notre instruction, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a besoin eh bien, de dire, Seigneur, si ça leur est arrivé, mais j'ai besoin de veiller. Ne dis pas, mais pasteur, tu ne comprends pas, j'ai une famille, j'ai un travail, j'ai des études, il faut vraiment que je m'en occupe tout à l'heure. Je parlais avec une petite fille et sa maman. Et je lui dis, tu sais, des petites filles qui sont intelligentes comme toi, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, hein. Des gens qui sont des capacités à votre travail, mais vous en avez beaucoup. Des gens qui veulent réussir leur mariage, il y en a beaucoup. Mais comment ça se fait que moi, Seigneur, qui ne suis pas meilleur qu'eux, je réussis ce que j'entreprends. Ne dis pas, c'est parce que tu es meilleur que les autres. C'est pas vrai. Tu n'es pas meilleur que les autres. C'est parce que c'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui te bénit. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit ce conseil. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Vous en connaissez tous des couples qui veulent réussir leur vie de famille. C'est la catastrophe. C'est des divorces, c'est des pleurs. Et pourtant, au début, ils ont voulu réussir, comme nous. Quelle est la différence ?
mon frère, ma sœur, c'est qu'on a été attaché au Seigneur, que nous puissions dire « Je veux rester attaché à toi ». Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Ne dis pas « Si je réussis mes études, c'est parce que je suis supérieur ». C'est pas ça, c'est parce que tu as donné ta vie au Seigneur, tu le pries, il te répond et il te fait grâce, il te secourt. Alléluia. C'est de lui d'où vient le succès. Alléluia. Amen. Et nous voulons dire « Seigneur, je veux rester dans tes voies. La sainteté, c'est ça. Alléluia. Amen. » Alors si j'avance, garder la vérité, garder la parole, c'est garder la vérité. Pourquoi je dis ça ? Parce que Jésus se nomme, dans le texte que nous avons lu, eh bien, celui qui est le véritable, le véritable. Ben, on a Jésus, c'est la vérité, c'est celui qui, eh bien, nous libère du péché. Nous comprenons, oui, c'est celui qui est le véritable. Lorsque nous parlons de Jésus, notamment dans ce quartier, on est face à une puissance de mensonge. Vous le savez, une religion qui nous parle, eh bien, de Jésus, mais d'une autre manière dont la Bible en parle, voyez, et qui n'apporte aucune solution en vérité, parce que si Jésus est un simple homme, un simple prophète, eh ben, tu peux pas être sauvé. Si c'est un homme comme les autres, tu peux pas être sauvé. Il nous est parlé ici d'un système religieux dont la Bible parle ici, une synagogue de Satan, des gens, eh bien, qui ne reconnaissent pas en Jésus-Christ le Messie, le Sauveur, celui qui efface nos péchés. Et il y a comme une puissance de mensonge. Vous savez, Satan, c'est quand même le menteur. Il développe toutes sortes d'arguments eh bien, pour nous éloigner. Et mes frères et sœurs, vous savez tout cela, c'est que l'Église s'est toujours affaiblie lorsqu'elle s'est éloignée de la vérité, lorsqu'elle s'est éloignée de Jésus. Elle s'est toujours affaiblie. Et l'Église a toujours grandi, prospéré lorsqu'elle s'est attachée à la parole du Seigneur. La Bible nous parle eh bien, d'un contexte compliqué dans une église, l'église de Corinthe, où il y avait des divisions, des dissensions et des situations de péché inextricables. Et la parole de Dieu nous dit, mais ils étaient sous l'influence de faux apôtres qui leur prêchaient un autre évangile, un autre Jésus, avec un autre esprit. Parce que eh bien, l'évangile, c'est l'évangile de la grâce, mais c'est l'évangile également de la gloire. Alléluia. La vérité. C'est que Jésus transforme les hommes et les femmes dont il se saisit. Alléluia. La vérité, c'est que lorsqu'on appartient à Jésus, on ne traîne pas des chaînes et des boulets. C'est vaincu dans le nom du Seigneur. Alléluia. La vérité, c'est qu'il nous libère. Amen. Alléluia. Et s'il y a encore peut-être dans le cœur, et je voudrais culpabiliser personne, parce que parfois on peut être attristé, on peut être violenté, et on peut être, j'allais dire, malmené, harcelé, et on peut pleurer. Mais ça, c'est pas des boulets, c'est pas des chaînes. Le Seigneur veut te restaurer et veut te guérir. Alléluia. Mais ce dont je veux parler, eh bien, c'est une vie qui a été affranchie, eh bien, du péché. La vérité, eh bien, c'est ce que le Saint-Esprit veut confirmer au milieu de nous. Alléluia. Et je crois que notre monde a besoin d'hommes et de femmes qui gardent la vérité et qui ont une vie authentique et véritable dans ce monde. Alléluia. En préparant tout cela, je me suis rendu compte que c'est ainsi que dans la première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul s'est présenté eh bien, aux gens de Thessalonique, notamment, donc 1 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 1er, qu'est-ce qui a donné de l'autorité à la parole de Dieu ? Souvenez, qu'est-ce qui donnait de l'autorité à Jésus ? Il parlait non pas comme les scribes et les docteurs, mais avec autorité, avec puissance, quoi ? Ça veut dire que ce qu'il disait le mettait en pratique. Voilà. Et ici, il nous est dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 1er, voici ce que Paul dit, « Voici, vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne reposait ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous avons eu de la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, et de même qu'ils nourrissent, etc., etc. Bref, vous remarquez que Paul insiste sur son témoignage. Il n'est pas venu avec des mots simplement. Mais de la même manière que Jésus est le véritable, parce que ce qu'il l'a dit, il l'a accompli, mais l'œuvre de Dieu est véridique dans nos vies, parce que ce que Dieu a dit, il l'a fait aussi dans nos vies. Alléluia. Amen. Et je crois qu'on a besoin de le prêcher, de le redire, et de veiller sur notre vie, et de dire, Seigneur, comment, ça vous est jamais arrivé de dire ça? Comment ça se fait que ça c'est écrit et que je ne le vis pas? On a eu un don spirituel tout à l'heure, hein, de garder la paix et de ne pas avoir peur. Ne crains pas. Ne crains pas pour ton avenir, etc. C'est, peut-être que quelqu'un je dit, mais tu vous savez, pasteur, le Seigneur sait, il y a quand même des raisons d'avoir peur. Ouais, mais la parole de Dieu te dit, le Seigneur te dit, médite cette parole jour et nuit, mais fortifie-toi et prends courage. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia, amen. N'aie pas peur, chasse la peur, dans le nom de Jésus. Et c'est ça qu'il faut vivre, ces promesses. Alléluia. Mais c'est ça, c'est la vie. On va pas être des gens de façade, des gens qui ont un discours et qui vivent autre chose. J'oserais même vous dire et vous rappeler que vous êtes des pentecôtistes. Vous croyez dans l'action du Saint-Esprit qui fait au-delà de tout ce que vous pouvez penser et imaginer. Alléluia! Je suis heureux d'avoir Claude. On a prié, il est là. Dieu a répondu. Mais c'est ça la vie chrétienne. Alléluia! On prie, on veut voir la gloire de Dieu. Seigneur, c'est ta parole. Ben, Seigneur, c'est la vérité. Accomplis-la. Alléluia! J'insiste pour le dire, pour que nous puissions et certainement... C'était un des secrets de l'église de Philadelphie qui avait l'amour de la vérité. En pensant à cela, j'ai trouvé ce texte que plusieurs connaissent, qui se trouve dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2e et au verset 9, où il nous est parlé de l'avènement de l'Antichrist. Et regardez ce qu'il nous est dit. 2 Thessaloniciens 2.9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, pas pour ceux qui vivent, pour ceux qui ont cette communion avec le Seigneur. Et regardez, une définition de ceux qui périssent, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils ne reçoivent pas la vérité avec amour. On peut le traduire comme ça. Seigneur, parle-moi, même si tu me reprends, mais je préfère que tu me reprennes plutôt que tu me laisses dans le mensonge. Je veux marcher dans la vérité. J'aime ta parole. Alléluia. Amen. Même si elle te fait pleurer, aime-la. Parce que vaut mieux être attristé par le Seigneur qu'être attristé par le monde. Et la tristesse de Dieu, elle ne dure pas longtemps. Parce qu'après, tu te repens et le Seigneur te redonne sa joie. Alléluia, rends-moi la joie de ton salut. Amen, dira David. Gloire au Seigneur. Et si je continue, regardez verset 11. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre grâce à votre continuellement à Dieu, parce que Il vous a choisi, Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, pour la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Mais il nous est parlé quand même d'une puissance d'égarement. Enfin, que celui qui s'endurcit encore, celui qui pêche, qui se souille encore. Seigneur, on veut garder ta parole. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen. Gardez la vérité en toute simplicité et dire, ben, si le théologien machin, il pense comme si, moi, Seigneur, je veux garder ta parole. Alléluia. Même si je suis pas un libéral, si je suis pas dans l'actualité. Mais Seigneur, c'est ta parole. Je t'ai rencontré. C'est toi que je veux garder. Alléluia. Je termine. Vous êtes content que je termine? Voilà. Ne parlez pas trop fort. Voilà. Donc, je termine en disant, et le dernier point, vous avez vu, il nous est dit, que Jésus, c'est celui qui tient la clé de David. C'est une expression qu'on trouve dans Ésaïe au chapitre 22 et au verset 22. Ça signifie que Jésus détient l'autorité suprême concernant l'entrée de son royaume. Et il nous est parlé d'une porte ouverte. Cette expression porte ouverte parle de l'entrée dans son royaume qui est promise, mais dans Colossiens 4:3 où également Paul parlera d'une porte ouverte, c'est une occasion de le servir. Voilà, c'est une occasion. Bref, d'une manière, que ce soit pour l'éternité dans son plan de rédemption ou dans son plan plus local dans nos vies pour apporter le témoignage, ça signifie toujours que c'est celui qui tient la porte ouverte pour que son plan se réalise dans ta vie. Et il a l'autorité. Il a cette autorité-là. Et il dit, quand j'ouvre une porte, il n'y a personne qui peut la fermer. Et quand je la ferme, il n'y a personne qui peut l'ouvrir. C'est pour ça que je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin de dire, Seigneur, donne-moi du discernement. Quand on veut faire un choix, Seigneur, si c'est ta volonté, ouvre la porte. Vous savez, quand la porte s'ouvre, quand, vous l'avez vécu, hein, quand c'est la volonté de Dieu, toutes les portes s'ouvrent. Tac, 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 tac. Mais quand ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est dur, et tu pinailles, et voilà, Seigneur. Mais là, il nous est dit, eh bien, qu'il est celui qui tient la porte ouverte, et moi, je le mets en rapport avec donc, ce quatrième point que je vous dis. Celui qui garde, il est gardé. Je te garderai. Mais Seigneur, comment tu vas faire pour me garder ? La porte sera ouverte. Il y a, malgré tous les obstacles, tu avanceras. Malgré toutes les situations qui s'élèveront contre toi, eh bien, rien ne pourra m'empêcher d'accomplir mes plans en ta faveur. Je te garderai. Puisque tu gardes ma parole, puisqu'elle a de l'importance, la révélation de ma personne dans ta vie, mais moi, je veux te faire vivre tout ce que j'ai prévu de te faire vivre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque j'ai songé à ça, je me suis souvenu de Paul et de Silas, acte 16, qui sont jetés en prison alors que Dieu les appelle et clairement une porte s'ouvre dans le territoire de la Macédoine, la Grèce du Nord. Ils se rendent à Philippe et là, l'œuvre de Dieu commence en Europe. Et en très peu de temps, je passe rapidement, ils sont, en raison de leur témoignage, jetés en prison. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils prient pour me dire, Seigneur, ils prient. Et un chrétien qui prie, c'est aussi un chrétien qui prie et qui réfléchit par le Saint-Esprit. Quand vous priez, vous réfléchissez aussi. Hein ? Dites, Seigneur, enfin voilà, on est en prison, qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, on t'a obéi. Oui, d'accord, tu nous as dit, passe en Macédoine, secours-nous. Ok, d'accord. Donc, il y a encore des Macédoniens à secourir. Tu ne vas pas nous abandonner. Bon, on va te louer en attendant. Et vous savez ce qu'il nous est dit ? Dans ce texte, un tremblement de terre va secouer cette prison. Et vous avez noté un détail, toutes les portes s'ouvrirent. Ah oui, toutes les portes s'ouvrirent. On les a mis dans la prison. Le Seigneur a brisé les portes de la prison. Alléluia. Amen. Et ils sont sortis de cette prison. Et le plan de Dieu, eh bien, c'est accompli. Alléluia. Et je voudrais dire peut-être à quelqu'un, peut-être que vous êtes passé par une secousse, un tremblement de terre, où tout s'est effondré et vous dites, mais il va falloir tout reconstruire, Seigneur, j'en ai pas la force, c'est compliqué. Vous savez, la parole de Dieu, quand elle s'adresse aux gens de Philadelphie, les Philadelphiens, je ne sais pas si on dit comme ça, eux, ils sont passés par un moment particulier. L'archéologie, l'histoire nous renseigne sur la ville de Philadelphie. C'est une ville qui avait été secouée par un violent tremblement de terre et la ville entière a été rasée. La ville entière a été rasée. De telle sorte que pendant des années, en attendant que la ville soit reconstruite, les habitants de Philadelphie ont habité à l'extérieur de la ville sous des tentes. Imaginez, tu as peu de puissance, bah, t'es fragile. Mais t'as quand même quelque chose, c'est que tu gardes ma parole. Et vous avez vu la bénédiction qui accompagne la victoire des gens de Philadelphie ? Regardez, je vous le rappelle. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. On a été rejeté. On a été mis dehors. Peut-être quelqu'un se sent exclu, mis de côté, rejeté. Parce que une injustice, parce que peut-être il y a eu un coup de pouce de quelqu'un qui a favorisé une personne au lieu de toi dans le travail. Peut-être c'est au niveau eh bien de ta santé. Peut-être c'est au niveau je ne sais pas. tu t'es rendu exclu du plan, eh bien, peut-être des hommes, mais la Bible nous dit, voilà, moi, il y a une porte ouverte. Et j'ai aimé quelqu'un tout à l'heure, dans sa louange, qui disait, Seigneur, un jour, je te verrai. Alléluia. Que nous puissions vivre pour ce jour, disant, Seigneur, peut-être je suis exclu, peut-être que je suis mis de côté, mais Seigneur, un jour, je serai avec toi dans le ciel et j'en sortirai plus. Alléluia. Mais dès à présent, peut-être dire, Seigneur, je veux prendre place parmi ton peuple et je ne veux plus en sortir. Je veux prendre place dans ton salut et tu me dis, tu n'en sortiras plus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous voulez bien qu'on puisse dire, Seigneur, je veux garder ta parole. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous console, nous fasse progresser et nous fasse grandir dans sa parole. Alléluia. On va prier ensemble. Seigneur, nous te bénissons.